Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes.
Cet épisode est le troisième et dernier de la série sur les questions fréquentes posées par rapport à la méthode GTD, Getting Things Done. Pour rappel, ce sont des enregistrements qu'on avait faits sur l'ancien podcast, que nous avons donc repassés sur le podcast actuel. Les questions sont toujours tout à fait d'actualité et leurs réponses aussi. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
Et ma première question, ce serait par quelles étapes commencer pour implémenter GTD pour la première fois ?
D'accord, c'est pas la réponse la plus facile tout de suite, mais c'est bien.
on va en prendre une plus facile. Et ben voilà, c'est pas la question la plus facile. Elle est là souvent. Je la reposerai un peu plus tard quand tu seras plus en forme. De te poser une autre question peut-être un peu plus simple.
Vas-y.
La première, en fait, tout simplement. À ton avis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de lire le livre ou est-ce qu'un résumé suffit ?
Je dirais que ça va dépendre des gens. Après, ce qui est bien dans le fait d'avoir le livre, c'est que ça sert de référence, si tu veux. Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui peuvent tout à fait lire un bouquin, mettre en place ce qu'il y a dans le livre. D'autres personnes vont lire un bouquin, vont commencer à lire le livre et puis s'arrêter en cours parce que ça ne leur parle pas assez ou ça ne va pas assez à leur rythme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, grosso modo, il y a, on va dire, deux différentes catégories de personnes quand on commence à s'intéresser à GTD, à la mise en place. Il y a des gens qui vont être très à l'aise avec tout ce qui est au niveau des actions. Tu vois, les choses qu'on fait au quotidien, les emails, c'est-à-dire qu'on peut leur dire facilement « Faites-moi la liste de tout ce que vous avez à faire là en ce moment en termes de coups de fil à passer, d'emails, de réunions à planifier. » Tu vois, donc des choses qui sont très concrètes, très quotidiennes, j'ai envie de dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont moins à l'aise avec ça parce que quelque part, elles se sentent un peu contraintes et elles vont répondre plus facilement à des questions qui vont être davantage sur la perspective, c'est-à-dire quels sont vos rôles dans votre métier ou quels sont vos rôles dans la vie. Ça va leur parler davantage. Ils vont dire, dans mon métier, je suis directeur financier, donc je m'occupe de tel aspect, je m'occupe de surveiller celui-là, je m'occupe de etc. Donc, ils sont des choses de plus haut niveau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. Les deux sont évidemment légitimes, puisque de toute façon, les deux, il faut bien les faire. Donc, il y a bien un moment où il faut faire des actions. Et même pour les gens qui sont tout à fait dans les actions, il y a bien un moment où il faut savoir à quoi ça sert, quoi. Ou du moins dans quel cadre ça s'inscrit. Mais en termes d'approche vis-à-vis de la méthode, ça joue son rôle. Et effectivement, la partie des gens qui sont davantage en réflexion sur les choses de perspective, sur les rôles, les choses comme ça, lire le bouquin, quelque part, met du temps à démarrer pour eux. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon, il y a les histoires, il y a un peu ce que raconte David Allen au départ, et ils se disent un petit peu, bon, quand est-ce qu'on en vient à ce qui m'intéresse vraiment, puisque le bouquin commence quand même par les 5 étapes de la méthode. Alors, pour répondre à la question plus brièvement, ça sert de lire les livres. Pour moi, ça sert surtout de référence derrière. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir en formation, par exemple, sans avoir lu le bouquin. C'est aucun problème avec ça. On peut très bien commencer un coaching sans avoir lu le livre. On peut très bien commencer avec des amis, en parlant avec des amis qui, eux, connaissent bien la méthode, et puis commencer à mettre des choses en place sans forcément avoir lu le livre. En entier, je veux dire, avant. Après, c'est vrai que c'est une aide. Si on peut le faire, c'est d'autant mieux, parce que le livre, quand même, apporte une structure. Mais surtout, à mon avis, le bouquin est intéressant dans le fait où on peut y revenir. Toutes les personnes qui ont lu le livre toutes les personnes qui ont lu le livre et qui le relisent une seconde fois, ou une troisième, ou une quatrième, etc., disent toutes qu'elles voient des choses qu'elles n'avaient pas vues la première fois. Presque comme si c'était un nouveau bouquin.
Quand tu dis un niveau plus élevé, est-ce que tu parles des horizons ?
Oui, ça revient à ça, effectivement. L'horizon plus élevé, ça va être le... Disons qu'il y a les gens qui fonctionnent à l'horizon 2, tu vois, des rôles, des responsabilités. Il y a des gens qui fonctionnent vraiment depuis ça, hein, depuis les zones de responsabilité. Et puis il y a des gens qui fonctionnent davantage depuis les actions du quotidien. Bon, c'est un peu les deux grandes catégories. On avait un podcast avec Geoffrey Ozou, un des podcasts sur entreprise et management, où Geoffrey montre typiquement comment lui fonctionne plutôt à partir justement, même au quotidien, des zones.
Donc pour ma part, moi je prends déjà des notes, hein, je fais des listes, ce qui est rapide je le fais tout de suite. Ce serait quoi la différence entre GTD et mon organisation actuelle qui fonctionne pas très bien?
Alors tu me tends la perche, mais j'ai envie de dire que la première différence c'est que GTD fonctionne. Mais bon, plus sérieusement, c'est une question de système. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'on retrouve dans GTD, Pour une raison très simple, c'est qu'en fait GTD est né de l'observation, c'est-à-dire que c'est pas du tout une théorie au départ. David Allen n'est pas du tout un théoricien au départ des choses, quelqu'un qui s'est mis sur un coin de table pour dire comment on pourrait faire pour bien travailler. C'est quelqu'un qui a observé comment les gens faisaient et qui a remarqué que quand on faisait les choses d'une certaine manière, ça fonctionnait mieux. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il a systématisé ce qui fonctionnait bien à toutes les situations similaires. Tu vois, on voit que dans une certaine situation, un comportement fonctionne bien, et ben on va aller chercher toutes les situations dans lesquelles on peut reproduire finalement ce comportement vertueux. Et donc ça finit par faire un système. Donc la différence principale qu'il y a entre la méthode en tant que telle, la méthode GTD en tant que telle, et puis ce que font la plupart des gens au quotidien, c'est ce côté systématique. C'est la première réponse que j'ai envie de faire. Le côté, c'est-à-dire qu'effectivement, faire des listes, alors après, il y a une manière de faire des listes. Les listes qu'on fait habituellement ne sont pas vraiment des to-do listes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment des listes à partir desquelles on peut travailler efficacement. C'est un bon début, mais il faut les travailler différemment. C'est ce qu'on appelle le balayage mental au départ, c'est-à-dire cette liste qu'on va faire qui va contenir un petit peu tout ce qu'on pense, enfin tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à l'esprit en ce moment. Il faut la travailler, il faut aller chercher sa prochaine action, il faut bien détailler cette prochaine action, il va falloir aller chercher à quel projet elle appartient, quel est le résultat qu'on souhaite atteindre à ce projet, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir aller travailler cette liste-là pour la rendre vraiment utilisable, fonctionnelle, de manière rapide et efficace, et de manière à nous redonner aussi l'intuition et la capacité à improviser. Ce qu'on ne peut pas faire à partir des listes de départ. Donc ça serait une deuxième différence que je vois entre GTD, disons les listes que propose GTD, et puis les listes qu'on peut voir au quotidien chez les gens qui ne connaissent pas la méthode, en fait. Ça serait les principales différences. Après, évidemment, l'histoire de faire rapidement ce qui peut se faire rapidement, ça c'est... Dans la méthode, en même temps, dans la méthode GTD, c'est un moment précis, hein, c'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément de faire tout le temps tout ce qui m'arrive de moins de 2 minutes, de le faire dès que ça m'arrive dessus. Hein. Cette règle des 2 minutes, au départ, elle est vraiment pour le moment où je vide mes boîtes de réception. C'est-à-dire que cette règle-là s'applique quand je suis en train de vider mes emails à zéro et quand je suis en train de vider ma bannette à zéro. Elle n'est pas au départ censée s'appliquer pour n'importe quand, un truc m'arrive dessus, il faut moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Ça peut, mais au départ, ce n'est pas ça dans l'orthodoxie de la méthode, j'ai envie de dire.
À propos des listes, donc ça veut dire que plus rien sera spontané jamais si je dois tout noter, en fait.
C'est l'impression que ça donne au départ, et c'est l'impression que j'ai eue moi-même quand j'ai commencé la méthode. Et finalement, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est le fait de tout noter qui nous permet de retrouver la spontanéité.
Donc c'est un peu comme du jazz, quoi. Hein.
C'est un peu comme du jazz, exactement. C'est un exemple que je prends souvent. En jazz, on peut improviser. Le jazz, c'est la musique de l'improvisation. Et des fois, on a l'impression que les gens font un peu ce qu'ils veulent, qu'ils sont super, super libres, etc. Alors oui, il y a une liberté. Mais finalement, quand tu regardes bien, ils ne font pas ce qu'ils veulent tout le temps. C'est-à-dire que en jazz, on va dire le jazz le plus standard, tu as une grille d'accords. Et tu es censé respecter cette grille d'accords. C'est-à-dire que tu ne peux jouer certaines notes qu'à certains moments et pas à d'autres. Et à d'autres moments, tu pourras jouer d'autres notes, mais pas forcément celle de l'accord d'avant, etc. Donc tu vois, tu as la grille d'accords à suivre. Ce qui fait que tu es très libre dans ce cadre-là. Même dans le plus free des jazz, il reste une chose toujours, c'est la pulsation. C'est-à-dire que le musicien qui ne joue pas en rythme, finalement, personne ne peut jouer avec lui et lui-même. ne peut même pas jouer avec lui-même, puisqu'il ne sait pas trop où il va. Tu vois. C'est-à-dire que la liberté, elle existe à partir du moment où il y a une structure. Donc c'est un exemple que j'ai déjà donné. Et la spontanéité, elle vient de ce cadre. Donc rapportée à GTD, cette spontanéité, elle vient du fait que, comme j'ai noté justement tout ce qui m'intéresse de faire, toutes les actions que j'ai à faire, tout ce que je sais devoir faire, quand quelque chose d'autre se présente, c'est beaucoup plus facile pour moi de comparer ce qui se présente à ce que je sais déjà, à ce que je connais déjà, parce que c'est sur mes listes. Tu vois, parce que si j'avais pas ça, si j'avais pas noté tout ça, j'aurais des choses en tête, c'est-à-dire en gros ce qui est le plus fort présent à mon esprit, mais qui n'est pas forcément le plus important d'ailleurs. Et puis quand l'imprévu se pointe, ou la nouvelle opportunité se pointe, bah, je vais juste la comparer avec ce que j'ai en tête, et pas avec tout le reste, toutes les autres choses qui sont peut-être d'ailleurs plus importantes que cette chose que je me propose de faire qui est imprévue. Donc la vraie spontanéité, elle va vraiment être, et la vraie créativité, elle va être là, elle va être dans le cadre que je me suis donné. Je connais pas d'artistes qui arrivent à créer à partir de rien. Quand tu regardes les artistes, souvent, même quand il n'y a rien, il y a déjà un système. Il y a toujours quelque chose derrière. Quelle que soit la manière dont on s'apprête à faire une œuvre, l'artiste se donne des codes, parce que s'il ne donne aucun code, bah, il ne sait pas du tout où il va, et finalement, il ne peut pas avancer.
Alors moi, je vois autour de moi des gens qui arrivent très très bien à s'organiser tout seul et sans système. Moi, mon cerveau, apparemment, non. Est-ce que c'est une question d'intelligence ?
ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça me fait penser à ce dessin qu'on voit, enfin cette photo d'ailleurs, qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, que tu as peut-être vu sur le bureau de, d'Albert Einstein, qui était apparemment, ou en tout cas paraît-il, quelqu'un de très désordonné dans ses affaires quotidiennes. Alors une première chose, c'est que je ne suis pas sûr qu'il était très désordonné dans ses raisonnements. Tu vois, quand il faisait un raisonnement mathématique, je ne pense pas que c'était quelqu'un de très désordonné. Après, je ne suis pas à même de les suivre, donc peut-être que oui, mais quelque part, je doute de ça. Je pense qu'il était sans doute peut-être moins intéressé à maintenir une certaine rigueur dans des choses qui ne l'intéressaient pas ou qui savaient être prises en charge. Pour revenir à cette photo, il y a une photo où on voit le bureau d'Albert Einstein, censément, couvert de tout un tas de trucs, etc., avec une légende comme quoi il aurait dit la phrase, quelque chose du style
« Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon, que dire d'un bureau vide ?»
Forcément, c'est pas très flatteur. Or, pour moi, un cerveau, pas un cerveau pour le coup, mais un bureau sur lequel il n'y a que le nécessaire, disons, qui est dégagé, il est clair, il est net, il est dégagé, il n'est pas vide. Tu vois, mon bureau n'est pas vide, mon bureau, quand je travaille, mon bureau, il y en a partout, hein, pour le coup, il n'y a aucun problème à en mettre dans tous les coins quand tu es en train de faire les choses, tu vois, c'est comme un cuisinier en cuisine, quand il fait sa cuisine, il n'est pas forcément super méticuleux sur tous les endroits où va aller se poser la sauce, etc., sauf dans la présentation finale. Mais, donc le bureau, quand tu travailles, peut tout à fait être en désordre, par contre, c'est vrai qu'on aime bien que ça soit quand même plutôt net, on va dire. Au début et à la fin, c'est comme un plan de travail, encore une fois, en cuisine, quand ils se mettent à faire la cuisine, avant, ils font la mise en place. Donc il y a la mise en place en salle, qui consiste à tout bien mettre comme il faut, et il y a la mise en place en cuisine aussi, qui consiste à faire en sorte que les outils soient bien à la place, qu'ils soient bien propres, qu'ils soient bien nets, que les plans de travail soient disponibles. Parce que si on se met à travailler dans un endroit, tu vois, si on se met à faire la cuisine dans un plat qui est sale, marche moins bien. Si on se met à devoir chercher la cuillère pour faire la sauce, ben, on risque de rater la sauce. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est pas de la maniaquerie, c'est juste, c'est plus facile pour faire les choses.
Et pourquoi est-ce que le cerveau, ou du moins, comment est-ce que le cerveau fonctionne par rapport à aux idées qui arrivent parce que c'est assez passionnant, enfin, c'est un des aspects passionnants de la méthode, c'est cette explication du fonctionnement du cerveau, en fait.
Oui, alors, ça demande, donc là, je mets pour nos éditeurs, je mets un gros warning, je ne suis pas du tout spécialiste en psychologie cognitive, je me suis intéressé évidemment à ça par rapport à la méthode qui ouvre des pistes. Disons que ce que fait la méthode, évidemment, c'est, comme c'était que de l'observation au départ, il se trouve maintenant que certaines études corroborent le fonctionnement de la méthode. Parce que il semblerait que le cerveau fonctionne comme ça, effectivement. Il y a la phrase mantra de la méthode depuis quelques temps qui est « le cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir ». Ce que veut dire cette phrase, c'est que effectivement notre cerveau est une superbe machine à trouver des solutions, à établir des rapports entre des choses qu'on n'a pas en apparence, à faire des comparaisons et essayer de trouver des points communs entre les choses pour trouver des solutions en fait. C'est une machine à résoudre des problèmes vraiment. Donc il est excellent pour ça. C'est grâce à ce cerveau-là qu'on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Bon, alors, les bons côtés et puis les mauvais côtés aussi, mais voilà, le niveau, la créativité vient de là. Par contre, le cerveau, il est nul pour nous rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment. Parce qu'il n'est juste pas conçu pour ça. Je pense que ça t'est déjà arrivé d'être dans une certaine situation, en réunion où tu es rassemblé avec des amis, puis d'un coup, boum, tu penses à autre chose qui n'a juste rien à voir et qui, à la limite, te sort de la discussion dans laquelle tu es.
Ça peut arriver surtout en réunion, oui.
Voilà. Surtout la réunion, et surtout si la réunion commence à, disons, perdre son intérêt pour moi. Voilà, je suis en réunion et tout d'un coup je pense qu'il faut que je change les pneus de la voiture. Pourquoi j'y pense maintenant? Je veux dire, ça n'a aucun sens, je ne vais pas me mettre à changer les pneus de la voiture maintenant, donc à quoi ça sert que mon cerveau me le rappelle maintenant? À rien de spécial, sinon à m'en souvenir. C'est-à-dire que le cerveau va me rappeler les choses que j'ai à faire, mais à des moments qui vont être totalement aléatoires pour moi. Si j'ai de la chance, ça va tomber au moment où justement je peux m'en occuper, mais vraiment on ne peut pas compter là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas fiable pour ça. Donc c'est pour ça que nous on note tout et qu'on se sort toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas compter sur le cerveau pour nous rappeler de ce qu'on a à faire. Maintenant, en ce qui concerne la production d'idées, il se trouve qu'on a rarement l'idée géniale quand on est en train d'écrire un email, par exemple. Tu vois, parce que quand tu es en train d'écrire un email, tu es en train d'écrire un email, c'est-à-dire que ton attention est centrée sur le fait d'écrire cet email. Qu'est-ce que tu veux raconter, comment tu vas le dire, et puis le simple fait de l'écrire, de taper sur le clavier pour faire la rédaction, etc. Tout ça mobilise ton attention. Et du coup, il n'y a pas de place pour l'idée, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, si je vais faire un résumé. C'est-à-dire que tu es tellement concentré sur un truc que tu n'as pas l'idée. L'idée géniale, en général, tu l'as quand? Tu l'as quand tu es détendu, déjà. Quand tu dans le dossier de ton siège en train de regarder par la fenêtre, ou quand tu conduis en voiture, ou quand tu es sous la douche. C'est-à-dire dans ces moments où finalement ton attention ne se fixe pas sur un point particulier, Et du coup, ton cerveau se met à faire un peu de... On peut appeler ça de la rêverie, mais c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément péjoratif. C'est juste, voilà, tu te mets à penser à plein de choses d'ordre différent, et tout d'un coup, boum, tu vas connecter deux choses entre elles et ça va faire une idée. En gros, il y a deux modes de fonctionnement, si je vais vraiment dans les grands schémas. Tu as le fonctionnement du cerveau qui va être sur la production, sur l'action. D'accord ? Quand je suis en train de faire quelque chose, et bien à ce moment-là, mon attention se focalise sur quelque chose en particulier. Et du coup, je ne suis pas disponible pour quelque chose d'extérieur. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Enfin, le cerveau ne peut pas fixer son attention sur deux choses à la fois, simultanément, de la bonne manière. Par exemple, quand tu as appris à conduire, au début, c'était compliqué. Ton attention était complètement sur la conduite elle-même du véhicule. Il fallait conduire droit, il fallait suivre la route. En même temps, il fallait démarrer, il fallait avancer, il fallait changer les vitesses. Il y a trois pédales, tu as deux pieds. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Du coup, toute l'attention était mobilisée là-dessus. Alors que maintenant que c'est devenu quelque part procédural, c'est une habitude, bah, tu peux tout à fait prendre ta voiture, arriver à un endroit, tu sais même plus comment. Et en prenant cette voiture, ton attention n'est pas fixée sur la conduite elle-même. Tu as ton attention qui est un peu sur la route, mais si tout va bien, au bout d'un moment, tu vas te mettre à penser à d'autres choses. C'est pas faire deux choses vraiment à la fois, hein. C'est juste on passe l'attention d'un moment à l'autre. Quand ton cerveau mobilise son attention sur quelque chose, il n'est pas disponible pour autre chose. Il n'est pas disponible pour la production de nouvelles idées ou la créativité. Il est disponible pour la créativité justement quand il ne fixe pas son attention sur un point précis. Tu vas avoir des idées parce que du coup tu vas justement penser et faire des rapports entre les choses.
Donc contrairement à une idée reçue, le cerveau est structurellement monotâche.
Absolument.
Absolument. Enfin, consciemment en tout cas.
Dans son fonctionnement, c'est ce qui semble être, hein, toutes les études récentes le montrent, on ne peut pas faire deux trucs à la fois. Par contre, ce qu'on arrive à faire plus ou moins, c'est du fractionné. C'est-à-dire passer rapidement son attention d'une chose à une autre, et puis à une autre, et puis à une autre. Mais c'est très fatigant et ça consomme beaucoup d'énergie. Et en général, ça nous ralentit même.
Alors justement, par exemple, bon, je viens d'acheter le livre, j'ai commencé à le lire. Pour toi, par quelles étapes on peut commencer ou on doit commencer pour implémenter GTD pour la première fois ?
Alors tu vois, on parlait tout à l'heure des personnes qui vont aborder la chose sous l'angle des zones de responsabilité, c'est l'horizon 2. Et puis les autres personnes qui vont aborder la chose par le terrain. Donc déjà, suivant la sensibilité propre de chacune de ces personnes-là, j'ai envie de dire, bah, essayez de voir où on est, où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui pense en termes de responsabilité, quels sont mes rôles dans la vie, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui pense en termes de qu'est-ce que j'ai à faire, quelles sont les choses vraiment très concrètes là que j'ai à faire en termes d'action et de projet. Parce que ça peut donner deux axes différents. Si je suis dans le premier cas, donc le cas des gens qui sont, on va dire, en termes de zone de responsabilité, qui pensent en termes de rôle, pour moi, la première chose, une chose intéressante en tout cas à faire pour démarrer, pour me familiariser avec la méthode, ça serait justement de faire la liste de ces rôles-là. Me dire, ok, qu'on peut faire d'ailleurs sous forme de carte mentale, hein, de mind map, c'est très pratique pour ça. Donc voilà, on se met au milieu et puis on se dit, voilà, au milieu on se met par exemple professionnel. Et voilà, au niveau professionnel, quels sont mes rôles, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelles sont les zones que je dois couvrir, quels sont les points, quels sont les endroits, les zones, les aires sur lesquelles je dois avoir mon attention. Et faire la liste de ça. En termes de mind map, donc c'est une mind map qui peut avoir plusieurs niveaux, hein, c'est-à-dire plus en termes de branches. Je peux avoir professionnel, j'ai un premier niveau qui va être, je sais pas moi, mettons que je sois dans les ressources humaines, et ben un premier niveau qui va être ouais, tout ce qui est l'embauche des nouveaux salariés. Donc l'embauche des nouveaux salariés suppose ensuite d'autres sous-domaines quelque part qui vont être, je sais pas moi, l'onboarding, comment on fait quand un nouveau arrive, comment on fait le processus de recrutement, comment on fait diverses choses comme ça. Donc je ferai vraiment cette première carte là au niveau professionnel, puis je la ferai aussi au niveau personnel. Alors, quels sont mes rôles en tant que, voilà, est-ce que j'ai des enfants, bah, j'ai des rôles vis-à-vis d'eux. Si j'ai encore mes parents, j'ai aussi des rôles vis-à-vis d'eux. Si j'ai des amis, j'ai des rôles vis-à-vis d'eux. On pense rarement en termes de rôle de cette manière-là avec ses amis, parce que quelque part c'est quelque chose d'intuitif, c'est un comportement intuitif. Mais si je suis ami avec quelqu'un, ça suppose que je nourris cette amitié, qu'on se voit, qu'on fasse des choses ensemble, etc. Vous voyez, il y a des interactions de ma part. Si je fais jamais rien, ben, il se passera plus rien au bout d'un moment. Donc voilà, je commencerai par ça, et ensuite aller chercher dans chacune de ces zones, ben, quel projet j'ai en ce moment pour faire vivre ces zones-là. Sachant qu'il y a des zones qui ne vivront pas, et puis il y a des zones qui vivront, etc. Donc je partirai vraiment un peu comme ça. Et une fois que j'ai les projets, bah, j'irai me dire, bon, bah, ce projet maintenant, comment je pourrais le démarrer? Donc j'irai chercher ma prochaine action. A l'inverse, maintenant, si on est plutôt le type de personne qui réagit mieux, on va dire qui est plus à même de voir les projets, à faire les actions, etc. du moment, là, pour le coup, je ferai la liste de tout ce que j'ai à faire en ce moment. Ça partirait par ce balayage mental, comme on dit dans la méthode, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie en ce moment? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il peut y avoir des choses sur lesquelles je n'agis pas effectivement maintenant, mais qui m'intéressent. Apprendre le néerlandais, apprendre le violoncelle, des choses comme ça que je peux avoir envie de faire. Ça vaut le coup de les noter pour les agir dessus plus tard. Mais en tout cas, voilà, si je suis dans le deuxième cas, je ferai cette liste-là de tout ce que j'ai à faire, en termes d'action, que j'irai ensuite décliner en termes de résultats à atteindre. Finalement, cette action-là, elle sert à quoi ? Qu'est-ce que je cherche à faire avec ces actions ? C'est mon résultat, donc ça, c'est mon projet. Et puis voilà, je démarrerai la méthode comme ça, donc en notant et puis en allant cherchant ensuite mes actions.
Donc on part soit des zones de responsabilité, soit des actions, selon finalement ce qui nous est le plus proche, quoi.
Oui, et puis après se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire que même si on est parti des zones de responsabilité, il n'empêche qu'il faut quand même faire les choses. Dans le monde dans lequel on vit, la seule chose qu'on peut vraiment faire finalement, c'est agir, c'est des actions concrètes. Finir par le premier truc à mettre en place pour moi c'est les fondamentaux, hein, c'est vraiment les 5 étapes. Noter ce qui retient notre attention, clarifier ce que ça veut dire en termes de prochaine action et de projet, organiser ça dans les listes qui vont bien, donc les listes, hein, de contexte pour la méthode, la liste de projet, la liste en attente, le calendrier, revoir l'ensemble une fois par semaine, ça c'est vraiment le point critique, hein, c'est la revue hebdomadaire, et puis au jour le jour, au quotidien, hein, quand je décide quoi faire, et ben, je travaille à partir de mes listes. C'est-à-dire, je suis tel endroit, je vais sortir telle liste qui correspond à l'endroit dans lequel je suis, et puis ça va me donner la liste de ce que je peux faire à cet endroit-là.
En quoi, justement, de ranger les projets, ou du moins les actions, en contexte, ça rend ces to-do list plus efficaces ?
Alors, il y a deux choses qui rendent les to-do list plus efficaces. Il y a effectivement ce rangement par contexte, et il y a aussi le fait qu'on détaille vraiment les actions qu'on va mettre dessus. D'accord, c'est-à-dire qu'on met les prochaines actions, on ne met pas toutes les actions de tous les projets, hein. On ne met que la prochaine action, et cette prochaine action, on va la détailler, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste mettre « appeler Jean-Paul ». Alors c'est sûr que sur le moment, on sait très bien pourquoi on doit appeler Jean-Paul, hein, quand on écrit l'action, on sait bien à quoi ça correspond, etc., puisqu'on vient de réfléchir à ça. Mais ce qui se passe, c'est que 3-4 jours plus tard, 5 jours plus tard, noyé au milieu de tous les autres appels, on ne sait plus pour qu'est-ce qu'on lui voulait à Jean-Paul. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, de vraiment détailler davantage, appeler Jean-Paul pour lui dire ça. Ça paraît bizarre sur le moment, mais vraiment, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de clarté après, quand on se met à choisir les actions quelques temps plus tard. Appeler Jean-Paul pour lui dire ça, son projet machin, ça marche très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider aussi, ces listes de prochaines actions. Maintenant, en quoi le fait de les ranger par contexte est intéressant ? Le premier intérêt, c'est que ça nous permet de filtrer tout ce qu'on a à faire uniquement en fonction du lieu où on est, des outils, etc. C'est-à-dire qu'on réduit considérablement nos possibilités, simplement en tenant compte de l'environnement. C'est-à-dire que quand je suis au bureau, forcément, il y a plein de choses de la maison que je ne peux pas faire. Du coup, ça ne me sert à rien de les voir. J'ai même pas envie de les voir, parce que je ne peux même pas agir dessus, ça sert absolument à rien. À l'inverse, quand je suis à la maison, pour le coup, là, je veux voir ce que je peux faire à la maison. J'ai pas envie de voir ce que je peux faire au bureau, puisque j'y suis pas. Donc, c'est un peu ça l'intérêt des contextes, c'est de rassembler les actions par même nature d'action, c'est-à-dire, et pouvoir les faire justement quand on est dans la situation de pouvoir les faire. Après, il y a un autre intérêt qui va être dans certains contextes. On va pouvoir utiliser notre cerveau justement d'une manière différente, c'est-à-dire que le cerveau adore les modes de fonctionnement. Il adore rester dans certains modes de fonctionnement. Les commerciaux connaissent ça par cœur, hein. Les commerciaux, quand ils passent les appels, en général, passent tous leurs appels en même temps. Alors que si on regarde bien, ça pourrait être étonnant, ils appellent des gens différents, sur des problématiques différentes, pour leur vendre des choses différentes. On pourrait se dire, mais pourquoi ils ne prennent pas le premier client, le premier dossier ? Ils l'appellent, ils font le compte-rendu de l'appel, ils font le devis, puis ensuite ils vont prendre le deuxième dossier, faire l'appel, le compte-rendu, le devis, etc. Et en général, non. Ils vont faire, les commerciaux vont faire tous les appels en même temps. Mmh. Et il y a des chances qu'ils fassent tous les devis en même temps aussi. Parce que c'est le même mode de fonctionnement, et finalement, on dépense moins d'énergie mentale à rester dans le même mode de fonctionnement sur des projets différents, plutôt qu'à rester sur un même projet et changer de mode de fonctionnement.
D'accord.
Ça marche pas pour tout, hein. t'as pas de mode maison, t'as pas de mode Jean-Marc, si jamais t'as des choses à voir avec Jean-Marc, tu vois. Mmh. Mais par contre, on a un mode pour les emails, clairement. Donc il y a clairement un intérêt à faire tous ces emails d'un coup. Alors je dis pas traiter tous les emails d'un coup, je veux dire, par exemple, si je sais que j'ai 5, 6, 7 emails auxquels il faut que je réponde, je sais déjà quelle réponse faire, voilà, j'ai intérêt à les faire à la suite. Je serai beaucoup plus efficace et ça serait moins fatigant. De la même manière qu'on a intérêt à faire les appels. Donc on a un mode appel. Souvent, dans certains logiciels, il y a un mode de fonctionnement du logiciel qui induit un mode de pensée du cerveau qui fait qu'on a intérêt à rester dans le même logiciel et faire tout ce qu'on peut faire sur tous les projets différents sur ce logiciel-là.
D'accord.
Il y a d'autres intérêts encore, mais vraiment, c'est les deux majeurs. Et puis évidemment, il y a l'intérêt aussi de rassembler les choses, de pouvoir les mutualiser. Simplement de me rendre compte que si j'ai besoin d'aller à un endroit pour un projet, et que si je peux y aller pour 5 projets, c'est super. Une fois que je suis à cet endroit-là, je travaille sur les 5, et j'ai même plus besoin de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis ici ? J'ai simplement à sortir ma liste de contacts, et ça me dit tout ce que je peux faire là où je suis.
La méthode GTD, elle fonctionne aussi avec des différents horizons. Moi, j'aimerais que tu puisses nous en dire un peu plus. Quels sont ces horizons, à quoi ça sert, et puis de les décrire finalement. Je crois qu'il y en a cinq.
Il y en a cinq, en fait, il y en a six en tout, si tu comptes le premier qu'on appelle le terrain. C'est les actions de ce que tu as à faire vraiment au quotidien, en termes d'email à écrire, de rendez-vous à assister, de personnes à voir, etc. C'est toutes les actions concrètes, physiques, visibles que tu fais au jour le jour. C'est là où, c'est notamment ça, tu vas ranger par liste de contexte, tu vois. C'est ce qui va se trouver aussi sur ta liste en attente, sur le calendrier. Voilà, c'est essentiellement ça.
D'accord.
L'horizon du dessus, c'est les projets. Donc, c'est ce fameux fil rouge qui nous permet de relier entre elles toutes les actions du dessous, d'accord ? Toutes les actions qui vont faire que j'ai atteint le résultat que je voulais atteindre. Ces projets, ça prend quelle forme ? Ça prend la forme de la fameuse liste de projets, d'accord ? C'est pour ça qu'on invite les gens à avoir une liste exhaustive de tous les projets en cours, pro, perso, et puis quelle que soit la taille ou l'importance de ces projets-là, juste pour avoir une bonne notion de la charge de travail à chaque instant. Et c'est ça qu'on va voir de manière hebdomadaire. D'accord, c'est le cœur de la revue hebdomadaire. On est tout à fait libre de revoir cette liste de projets plus fréquemment. Mais en tout cas, on vous dit au moins une fois par semaine, on met à jour tout ça. On vérifie qu'il y a bien les actions, etc.
D'accord.
Alors, hop, l'étage du dessus, c'est les zones de responsabilité. C'est-à-dire les rôles qu'on a dans la vie, les zones, les sphères de la vie professionnelle, personnelle, qui sont importantes pour nous, qu'on a envie de maintenir et dans lesquelles on a des standards, on va dire.
Des standards.
Pour nous, c'est des standards en termes de, voilà, je veux que ça soit au moins à ce niveau-là. Il y a un peu cette idée-là. Santé, la sphère santé, c'est-à-dire que pour moi, c'est important d'être en forme. Alors après, être en forme, ça veut dire plein de choses différentes. Donc pour moi, ça veut dire un truc précis, ça ne sera pas la même chose pour d'autres personnes. Voilà, mais c'est en tout cas les standards de ce que je considère devoir avoir envie, en tout cas, de maintenir.
Ces zones de responsabilité, elles touchent à la fois le professionnel et le personnel.
Oui, parce qu'on est une seule personne et on a, si tu veux, cette division personnelle-professionnelle, elle vient du fait que dans le monde dans lequel on vit, il y a une espèce de division comme ça du travail qui fait qu'il y a un truc pour lequel on est payé, on appelle ça un travail, et puis il y a tout un tas d'autres activités pour lesquelles en général on n'est pas payé, et on n'appelle pas ça le travail, on appelle ça le perso. Mais globalement, pour le cerveau, c'est la même chose.
D'accord.
Le cerveau dépense autant d'énergie mentale pour aller chercher les carottes de ce week-end, en tout cas penser à le faire, que pour se rappeler qu'il faut signer un contrat à 5 millions. C'est pareil.
D'accord.
Donc, c'est une division arbitraire qui fait pro ou perso, mais finalement, c'est la même chose. Donc ça, ça va être quoi ? Ça va être au niveau professionnel, typiquement, c'est ce qu'il y a sur une fiche de poste. C'est ce qu'on va trouver dans les manuels d'employés, ça va être ce qu'il y a sur des checklists de vis. Voilà, on revoit ça quand on revoit ça, en gros, tous les mois. On peut revoir ça tous les 3 mois, peut-être. Ces zones de responsabilité, maintenant que j'en parle, elles sont très importantes dès qu'on a un problème d'équilibre, justement, dans la vie pro et perso. Dès qu'on sent que l'équilibre est plus bon, en tout cas, qu'il nous convient plus, c'est vraiment très bénéfique d'aller faire un tour à ce niveau-là, de faire la liste de ça, ou si elle est déjà faite, de la revoir pour justement voir où est-ce que ça pêche, quoi, ou comment il faut que je fasse, sur quelle zone il faut que j'appuie pour retrouver davantage d'équilibre. Et dès qu'il y a un changement de vie, c'est un super endroit aussi pour aller voir. Changement de vie, ça peut être un nouveau poste ou être en transition dans tel ou tel domaine. C'est super parce que du coup, ça permet de définir les anciennes responsabilités, les nouvelles, et puis comment je vais rejoindre l'ancienne avec la nouvelle. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup, même en coaching de transition, c'est un outil dont je me sers beaucoup.
D'accord.
Alors après, on a l'horizon du dessus, qui est peut-être, on pourrait voir ça de nature différente, parce qu'on présente souvent sous terme de but et objectif, finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir d'ici 2 ans, 3 ans, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de manière à ce que notre vision, qui est l'étage du dessus, devienne une réalité, okay ? Donc ça, c'est des choses qu'on va aborder en séminaire, typiquement, en entreprise. Avec le board, on peut avoir aussi des conseils de famille à certains intervalles, etc. C'est vraiment, c'est le planning stratégique, c'est que ce qu'on veut faire. Quels objectifs on se propose d'atteindre, si on en a, ou comment on va s'y prendre. Ça, typiquement, c'est le genre de truc qu'on peut revoir tous les ans. Tous les 6 mois, si on est vraiment en période où on veut vraiment faire attention où on va, tous les ans, après, ça peut suffire. On le présente comme ça. Après, ce que les gens ne voient pas forcément tout le temps, c'est que ça peut être un moyen aussi de réfléchir à nos zones de responsabilité sur cet horizon-là, sur l'horizon des objectifs. C'est-à-dire, je peux très bien prendre une zone de responsabilité, par exemple la santé. Donc si je reste à l'horizon 2, la santé, ça va être quoi ? Ça va être donc ce que je disais, les standards. C'est-à-dire que pour moi, me maintenir en forme, ça veut dire telle et telle chose. Je pourrais avoir des projets en dessous, mais je peux avoir aussi des choses au-dessus. C'est-à-dire me dire, ok, maintenant ma santé, dans 3 ans, c'est quoi ? Où est-ce que je vais être dans 3 ans sur ce truc de santé ? Est-ce que j'ai envie peut-être de perdre du poids ? Est-ce que j'ai envie d'avoir des abdos de folie dans 3 ans ? Voilà. ça, je peux réfléchir comme ça. Ou est-ce que je peux dire, bah, finalement, dans 3 ans, pareil, ça ne change pas, etc. Je suis libre, hein, de faire ce que je veux. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'on peut décliner les zones de responsabilité. C'est un étage super intéressant, l'horizon 2. On peut le décliner aussi aux horizons 3 et supérieurs. Et c'est un truc qui n'est pas souvent vu parmi les gens qui pratiquent la méthode. C'est-à-dire qu'ils vont, réfléchir en termes d'objectifs vraiment assez, j'ai envie de dire, assez professionnels, assez en termes d'entreprise, voilà ce que je veux avoir fait, etc. Mais ils ne vont pas forcément décliner ça par zone. Et ça peut être un travail intéressant de se dire, voilà, ma santé dans 3 ans, c'est ça. Ma spiritualité dans 3 ans, c'est ça. Financier dans 3 ans, c'est ça, etc. Ouais, tu vois, développer quelque part, un peu comme une fleur, on irait développer maintenant l'horizon des attentions de la zone de responsabilité. Bah, hop là, on va aller voir au niveau, qu'est-ce que ça donne à 3 ans.
Donc en fait, il y aurait en fait quelque chose de statique par rapport aux zones de responsabilité. Qu'est-ce que j'en pense maintenant? Mm-hmm. Et on peut le faire avancer, ces zones de responsabilité, dans les 3 horizons du dessus. Suivants.
Oui, absolument. Ouais. Parce que de toute façon, in fine, tout ça, c'est jamais moi, hein. C'est jamais que moi, je veux dire, qui suis en haut de la pyramide. Donc tout ça, c'est assez logique. Mais c'est un chemin qui est intéressant de faire. Alors après, on a l'horizon du dessus encore, donc l'horizon 4. Et l'horizon 4, ce qu'on appelle souvent la vision. Cette vision, c'est le résultat accompli quelque part. Qu'est-ce que je vais avoir fait d'ici 10 ans, hein. C'est un peu le résultat à long terme, les scénarios de rêve, les choses que je me propose de faire. C'est-à-dire que c'est pas tellement... Pourquoi je dis 10 ans? Je dis 10 ans parce qu'en fait, c'est pas vraiment de durée. C'est juste parce que 10 ans, en général, c'est suffisamment loin pour que finalement, on arrête d'essayer de se mettre des échéances. C'est un peu ça l'idée. Mais finalement, à quoi ça ressemble quand c'est un succès en termes de vision, de résultats atteints? Et donc là aussi, on peut très bien décliner, et même, c'est un super travail pour ceux que ça intéresse de le faire, d'aller chercher... Mais là, on est vraiment dans les... Pour ceux qui ont fait les formations, on est du niveau 2 à 3, on est au niveau 3 quoi, quand même. Voilà, allez décliner chacune de ces zones de responsabilité aussi comme ça, en termes de vision. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'état ultime? Pour moi, cette zone de responsabilité, c'est santé. Qu'est-ce que ça raconte vraiment sur l'échelle d'une vie presque, hein? Ça c'est l'horizon 5, mais qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi pas déjà dès l'horizon 4 comme ça? En termes de succès à long terme, ça veut dire que bah, constamment, ayant pris soin de moi, bah, voilà, moins de maladies, moins de trucs, etc. Je suis plus en forme, j'arrive quand même à faire des trucs à 60 que je pouvais encore faire à 40. Enfin ouais, voilà, d'essayer de vraiment envisager un peu les choses comme ça. Quand est-ce qu'on voit ça? Bah, finalement, à quelle fréquence on voit ça? Curieusement, il n'y a pas vraiment de fréquence définie. C'est quelque chose qu'il faut revoir à chaque fois qu'on a besoin de clarté, de direction, d'alignement ou de motivation. Parce que c'est quelque chose, comme c'est une vision qui est accomplie, en général, c'est assez motivant. C'est vraiment des trucs qui sont très inspirants, tu vois. Ouais. Ça aussi, c'est typiquement quelque chose qu'on voit en séminaire, mais à plus longue échelle. Et à l'échelle d'une carrière, presque à l'échelle d'une vie d'entreprise. Des choses en bureaucratie qu'on va aller chercher là-dedans, c'est à quoi sert, c'est un peu le... On approche de la raison d'être qui est l'étage du dessus, mais à quoi sert l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qu'on a accompli? Et donc l'horizon du dessus, pour le coup, là on est vraiment là-dessus. La raison d'être et les principes, l'intention ultime, les standards de succès. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on est sur Terre? Dans quelle étagère, etc. C'est un peu ça.
On est dans quelque chose d'assez métaphysique, quoi.
Oui, alors après ça reste très réel, hein, parce que ça reste nos vies. Mm-hmm. Mais tu vois, on n'est pas dans l'interprétation. Ça reste, on est dans la projection idéale de ce qu'on aimerait être. C'est vrai que ça va commencer à rejoindre la métaphysique un peu. Tout le monde n'est pas obligé d'aller par là. On peut très bien juste en rester raison d'être, principe, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être en termes de standard, est-ce que j'ai envie de développer mes qualités d'intégrité, par exemple, est-ce que j'ai envie de... Intégrité, c'est quelque chose d'important pour moi, et comment je le décline derrière. Tu vois, à quel point j'ai envie d'être intègre, à quel point je peux être cool là-dessus et pas là-dessus, etc. Ça peut être des choses comme ça. L'intention ultime, qui je suis, quoi. Donc voilà. Et ça, encore une fois, c'est pareil, hein. Tu peux décliner aussi ces zones de responsabilité là-dedans, là.
Alors, à la fois, je vois bien, enfin pour ma part en tout cas, voilà les questions que je pourrais me poser, ou peut-être même les outils ou les jeux ou que je pourrais faire pour savoir quels sont mes buts ou quelle est finalement ma vision. Pour la raison d'être, ça me paraît... quelles questions on se pose pour la raison d'être ou pour toutes ces qualités ou à ce degré d'horizon?
Bah, tu sais, c'est la question que tu as trouvée dans pas mal de programmes de développement personnel, hein, c'est qui je suis, quoi. C'est un peu ça. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'existe? Ça peut être, tu vois, ça peut être aussi fondamental que ça. Ça peut être des questions comme ça. Encore une fois, je ne veux pas faire peur aux gens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de se poser ces questions-là si on n'a pas envie. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie, et c'est très bien comme ça. Mais si vous avez envie, c'est à cet âge-là que ça va se passer.
Voilà. Oui, parce qu'au fond, on peut se dire, bah, je suis là parce que je suis là, et puis j'ai envie.
Exactement.
D'en
profiter. Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Il n'y a vraiment aucune obligation d'aller plus ou moins là-haut dans tous les horizons. C'est ça aussi qui est bien dans la méthode. Mais c'est vrai que le modèle est cohérent, et si on a envie d'y aller, si on a envie de se poser ces questions-là, bah, on peut les envisager de cette manière-là. Pourquoi c'est intéressant, en fait, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça aussi dans GTD, c'est parce que après ça va nous permettre de relier ça, tu vois bien, avec les actions du quotidien. C'est-à-dire qu'après on peut redescendre tout en bas jusqu'au bas de la pyramide. C'est-à-dire, ok, j'ai décidé finalement que ces standards-là, c'est des choses que je voulais maintenir. Je suis cette personne, en tout cas pour le moment, je suis ça, c'est ce que j'ai trouvé. Ça va changer, ça va évoluer, c'est tout le principe du travail. Mais étant cette personne et ayant ces valeurs que je décide d'incarner quelque part, eh ben, j'ai envie que ça soit dans mes actions. Et donc, si j'ai décidé que l'intégrité c'était quelque chose de fort pour moi, eh ben, je vais essayer vraiment d'être intègre dans mes actions aussi, tout en bas.
Et donc, en fait, ça donne du sens à nos actions quotidiennes. Absolument. Des fois, on pourrait penser, enfin, on pourrait avoir le sentiment qu'elles en manquent un peu.
Absolument, ouais. Mais ça, c'est un peu le test du pourquoi qu'on fait pas mal de coachs et de psy qui connaissent ça.
Oui, c'est la question des 9 pourquoi.
Voilà, les 5, les 9, ça dépend des écoles, mais en gros, c'est ça. Ouais.
Donc, on pourrait interroger, par exemple, chaque zone de responsabilité avec 9 pourquoi. Pourquoi la santé, c'est important, pourquoi.
Ouais, et à chaque pourquoi, en fait, tu risques de monter d'un étage, souvent. D'accord. Ça sent pas au même niveau. Voilà. Et souvent, les pourquoi vont t'amener assez vite, finalement, à l'horizon 5. Tu vois, l'horizon 4, c'est... Quelque part, l'horizon 4, c'est l'horizon 5 réalisé, j'ai envie de dire. Tu vois, je te l'ai présenté de bas en haut, mais si tu descends maintenant la pyramide, c'est un peu ça. Hein. L'horizon 5, c'est à qui je veux être, et la vision, c'est voilà à quoi ça ressemble, ce que je veux être.
D'accord.
Pro et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.